Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Cette image d'Éric Zemmour dans un salon, le Bipol, qui tient en joue d'une certaine manière les journalistes. On va pouvoir en parler. Nous sommes avec Dominique, vous êtes avocat. Bonjour Dominique.
Oui. Oui, bonjour Pascal.
Vous avez vu l'image ?
Oui, j'ai vu l'image.
Et qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Oh, c'est une tempête dans un verre d'eau, laissez-moi être l'avocat d'Éric Zemmour, même si je ne sais pas où envoyer la note d'honoraire.
Bon, bah écoutez, une tempête dans un verre d'eau, je suis pas sûr que tout le monde pense comme vous, mais ça va être l'occasion, évidemment, d'en parler. Le rappel des titres avec Amandine.
Et à la une, le début du procès de l'affaire dite de la sextape. Vous savez, c'est cette histoire de tentative de chantage sur Mathieu Valbuena. L'audience s'est ouverte sans Karim Benzema, qui est jugé dans cette affaire, mais en présence. Et c'est une surprise de Mathieu Valbuena. Le débat autour de la hausse des prix du carburant, et alors qu'à l'Élysée, les derniers arbitrages sont encore en cours, Force ouvrière réclame ce matin la mise en place d'une prime pour les salariés, prime qui serait versée par l'entreprise. Et puis du foot, la Ligue des Champions, après la victoire du PSG 3-2 hier soir face à Leipzig, tous les regards sont désormais tournés vers Lille, le LOSC qui affronte ce soir les Espagnols du FC Séville. Match à suivre en fil rouge sur RTL, ce sera à partir de 21h. La météo avec vous, Peggy. Trois départements, attention, sont en vigilance orange, alerte au vent.
Exactement, Amandine. Le Finistère, le Morbihan, la Manche. En fait, la tempête Aurore, qui est un classique pour la saison, elle va donner un fort coup de vent entre la fin de journée et la nuit prochaine sur toute la moitié nord, avec des rafales jusqu'à 100-120 km/h sur les côtes, 80 à 100 km/h dans les terres. Pour cet après-midi, on a cette bande pluvieuse en fait qui se décale entre le Bordelais et le Nord-Est sous un ciel bien couvert. Sur le Nord-Ouest, ce qu'on appelle un ciel de traîne. Donc, beaucoup de nuages, quelques éclaircies, des averses et encore beaucoup de vent. Et puis sur la Bretagne, du coup, les averses vont se réactiver, seront plus fréquentes cet après-midi. C'est chargé également sur le golfe du Lion en remontant vers la vallée du Rhône. Et il reste quand même quelques régions. On a encore du soleil dans le sud-ouest, par exemple. Et puis sur la façade est et la Corse. Les températures, bah, du coup, elles sont en légère baisse au nord, mais ça reste doux. 17 à Brest, 19 degrés à Rennes et Lille, 21 à Paris, Tours, Nancy et Montpellier, 22 à Grenoble et Marseille, 26 degrés encore à Agen et 27 à Biarritz. C'est un avant-goût, un petit air d'été.
Bon, et demain, on aura encore beaucoup de vent. Hein.
Beaucoup de vent, surtout sur la moitié nord, avec des rafales jusqu'à 60, voire 90 km/h, notamment même dans les terres, notamment sur le nord-est. Ça se calmera dans la journée. Et puis, côté temps, ce sera encore pluvieux le matin sur la façade est et sur les côtes de la Manche. Ailleurs, entre nuages, éclaircies et quelques averses. Et dans l'après-midi, globalement, ça restera un temps bien maussade, surtout au nord, avec plus d'averses. Les éclaircies vont revenir sur l'extrême nord, puis on va retrouver du beau temps sur le sud-est. Tout ça sous des températures en légère baisse, de 14 à 18 au nord et de 17 à 22 au sud.
Merci Peggy. Merci beaucoup Amandine. Il est 13h04.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Alors Éric Zemmour, je vous le rappelle, était ce matin au salon du Milipol. C'est le salon mondial de la sécurité et de la sécurité intérieure des États. Et le polémiste a pris la pose arme au poing. Il n'a pas hésité à viser les journalistes. Vous avez peut-être entendu le sujet d'Hortense Crépin dans le journal. Et forcément, il y a là matière à discussion. Dominique, vous dites « c'est une tempête dans un verre d'eau ».
Oui.
Convenez que Mme Schiappa a déjà réagi, elle a exprimé sa désapprobation, et convenez que cette image puisse choquer.
Un, c'est maladroit. Deux, de là à ce qu'on dise que ça choque et qu'on surjoue l'indignation, c'est autre chose. Un, c'est maladroit. Parce qu'effectivement, on ne fait pas ce genre de choses. C'est un peu léger de la part de quelqu'un qui pourrait être candidat à l'élection présidentielle.
C'est horrifiant, a dit Marlène Schiappa.
Non, il ne faut pas exagérer quand même. Donc, première chose, c'est maladroit parce que tout chasseur vous le dira, on ne doit jamais pointer une arme, même si on la croit déchargée, face à quelqu'un. C'est une règle de sécurité de base élémentaire. Deuxièmement, on surjoue. Quand Mme Schiappa dit que c'est horrifiant, enfin, il ne faut pas exagérer, ce n'est pas un tueur en série, Éric Zemmour. C'est pas, on ne va pas non plus le traiter de totalement irresponsable ou de fou dangereux.
Non,
c'est
mais pointer un fusil de haute précision utilisé par le RAID,
ouais,
comme des enfants joués au pistolet à eau, c'est
ouais,
vrai que convenez que ça peut, bien sûr... Je disais tout à l'heure, bien sûr, je ne pense pas qu'Éric Zemmour veuille tuer les journalistes, bien sûr.
Bien entendu.
Mais convenez. D'abord, ça montre également une part de sa personnalité, peut-être.
Oui, mais est-ce que vos confrères se sont sentis agressés, effrayés ?
Il faudra leur demander.
Il faudra leur demander. Ça, c'est la question aussi. Mais en tout état de cause, je trouve que les politiques qui montent au créneau en disant ça y est, on a trouvé quelque chose contre Zemmour.
Ça, c'est autre chose. Moi, je suis d'accord avec vous, je pense que ça peut être contre-productif. Mais je peux entendre ça. Je peux entendre.
Mais vous savez, dans le genre menace, hein, Pascal, il y avait aussi Jacques Chirac entre les deux tours de la présidentielle de 95, qui pointait le PDG de TF1 et Claire Chazal en leur disant « vous et vous, quand je serai président, mine de sel ». Alors, c'est autrement plus inquiétant.
Oui, alors, pour être tout à fait complet, il y a une vidéo qui a été postée sur Twitter. Ça rigole plus là, hein. Alors poussez-vous, reculez. Et ça, c'est Zemmour qui parle. Sitôt publiée, la vidéo a provoqué de nombreuses réactions indignées, dont celle de la ministre déléguée à la citoyenneté, jeudi, Marlène Schiappa. C'est horrifiant, surtout après avoir dit sérieusement vouloir réduire le pouvoir des médias. A-t-elle réagi ? Alors, c'est là que...
Il ne faut pas tout rattacher en disant il a dit qu'il voulait réduire le pouvoir des médias. Vous voyez, il veut tuer les journalistes. Ça n'a rien à voir.
Dominique,
quand on le dit, en ne mettant pas le ton, en disant effectivement, si on dit d'un ton neutre, poussez-vous, ça rigole plus là. Effectivement, on peut avoir peur. Mais s'il le dit en riant, dire, allez, voilà.
Est-ce qu'on peut faire de l'humour en plein procès du Bataclan avec une arme importante?
C'est toujours pareil. On peut rattacher à tout. À ce moment-là, on ne fera plus rien. On ne fera plus rien.
En tout cas, il va avoir
tout peut être surinterprété et on peut, de façon un peu fallacieuse, tout rattacher à un drame, un attentat, à quelque chose, pour dire, vous voyez, cet homme est dangereux, il a osé pointer une arme non chargée sur des journalistes en rigolant.
En tout cas, voilà une discussion qui fait causer, si j'ose dire. Il est 13h07, restez avec nous, on va prendre, je pense, quelques témoignages sur ce sujet. À tout de suite.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et avec Laurent Tessier sur cette image qui fait causer beaucoup d'appels.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est la polémique du jour. Éric Zemmour au Salon mondial de la sûreté et de la sécurité intérieure des États. Il prend la pose avec une arme, un sniper, celui utilisé par le RAID, et se tourne vers des journalistes. Ça rigole plus, baissez-vous, reculez, dit-il en souriant. La réaction de Dominique au standard.
C'est maladroit, parce qu'effectivement, on ne fait pas ce genre de choses, c'est un peu léger de la part de quelqu'un qui pourrait être candidat à l'élection présidentielle.
La ministre Marlène Schiappa réagit sur Twitter, viser des journalistes avec une arme en leur disant reculer n'est pas drôle, c'est horrifiant. Dans une démocratie, la liberté de la presse n'est pas une blague et ne doit jamais être menacée.
Alors après, effectivement, est-ce qu'il y a instrumentalisation de Madame Schiappa ou pas ? C'est la question. Et c'est pour ça que vous intervenez jusqu'à 14h30 sur ce sujet et sur d'autres, bien sûr. Nathalie, bonjour.
Bonjour.
Vous
Pascal.
Êtes directrice dans la communication. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne com qu'a fait Éric Zemmour?
Alors, plusieurs choses, Pascal. La première, contrairement à Marlène Schiappa, je ne me permettrai pas de juger sans savoir ce qui se passe dans la tête d'Éric Zemmour à la place d'Éric Zemmour. Donc, on va laisser Éric Zemmour s'exprimer sur ce point. Bien entendu, d'un point de vue communication, on peut mieux faire. Mais en même temps, Éric Zemmour, il l'a déjà dit à plusieurs reprises, hein, depuis longtemps, il considère que on est en guerre. Donc, finalement, la symbolique, moi,
Il n'est pas obligé de pointer son arme sur des journalistes. On peut être en guerre, mais pas contre les journalistes.
Oui, mais je pense que, bon, je crois qu'il souriait après, je pense pas que... Enfin, voilà, Éric Zemmour...
Je suis convaincu qu'il souriait, chère Nathalie. Je n'ai pas de... Sur le fond, je le répète, je suis convaincu qu'il ne veuille pas tuer les journalistes. Ça, je dis, bon, mais est-ce qu'il doit le faire? C'est une bonne question, quand même. Est-ce que c'est respectable? Alors, est-ce que c'est indécent? Est-ce que c'est pas adapté? C'est une question, quand même, qu'on peut se poser.
Tout à fait, tout à fait. En termes de gestes, c'est pas
Est-ce que c'est
adapté.
Digne?
Non, voilà, en termes de gestes, c'est pas très adapté, mais encore une fois, je laisse Éric Zemmour parler sur ce sujet.
Il a répondu d'ailleurs, puisqu'il a répondu à Marlène Schiappa, il a dit que c'était une imbécile. Donc,
Imbécile. Alors, ça, en revanche, je vais vous expliquer.
Non, Nathalie,
pourquoi.
Je peux pas vous laisser dire ça en revanche à l'antenne. Madame Schiappa, le modérateur que je suis ne peut pas laisser insulter une personne qui est ministre de la République.
D'accord, alors
sur
je
cette
retire
antenne.
Ce que je viens de dire.
Voilà, je retire là et je vous en remercie grandement.
Je vous en prie.
Vous pouvez dire à la limite que les propos peuvent être imbéciles, ce qui est différent. Mais vous ne pouvez pas dire ou qu'ils sont inadaptés. Mais vous ne pouvez pas dire qu'une personne est comme vous l'avez qualifiée.
Très bien, je retire mes propos. Ce que je veux dire, c'est que, et je vous rejoins Pascal, moi ce qui m'affole, c'est cette instrumentalisation permanente qu'on observe depuis l'élection d'Emmanuel Macron, donc de ce qui se passe en France. Vous voyez, là, on le voit avec Éric Zemmour, mais vous allez voir, dans les mois qui viennent, s'il se présente, ça va être tous ces faits et gestes vont être scrutés. On dirait qu'on n'a rien d'autre à faire que
c'est le principe de la présidence de la République. C'était vrai pour François Fillon, c'était vrai pour Emmanuel Macron, c'est vrai pour tous les candidats.
Mais justement, Pascal, souvenez-vous, François Fillon, on ne parlait que de lui. À l'époque, c'était pareil pour Sarkozy. C'est-à-dire que à un moment donné, il faut arrêter de prendre 67 millions d'habitants pour des imbéciles. Vous voyez ? Et là, en revanche, cette fois-ci, j'emploie le mot d'imbécile.
Bon, là, ça nous éloigne un peu de l'image qu'on commente. L'image, si je veux synthétiser votre pensée, vous dites que c'est quand même pas malin ce qu'il a fait.
Non,
c'est pas adapté.
Pas malin. C'est pas adapté.
Bon.
C'est pas adapté. Mais je dis attention à la psychiatrisation, parce que je la vois venir. Des hommes politiques qui aujourd'hui vont compter dans l'élection présidentielle. Et ça, je trouve que que Marlène Schiappa le dise, certes, mais c'est horrifiant. Pour pas exagérer.
Philippe est avec nous, qui est chef d'entreprise. Bonjour Philippe, qui écoute notre conversation depuis quelques minutes. Votre sentiment sur le geste. D'abord, est-ce que vous l'avez vu, ce geste?
Oui, je l'avais pas vu avant que vous me rappeliez, mais j'étais voir pour savoir de quoi on parlait. Et franchement, c'est une tempête dans un verre d'eau, quoi. On voit bien que c'est du second degré, qu'ils rigolent, on fait toute une histoire. Enfin, franchement, on n'a rien d'autre à faire. Enfin, moi, ce que je disais, ça m'encourage, je dirais, pour l'instant, j'observe. J'avoue que Éric Zemmour m'intéresse. Et ça m'encourage à voter pour lui s'il se présente.
Ça vous encourage, c'est-à-dire qu'il pointe une arme sur des journalistes et ça vous encourage à voter pour lui. En fait, ce qui vous agace, c'est la réaction des autres. C'est-à-dire que ce que vous voulez nous dire, c'est que la surréaction de certains est contre-productive à vos yeux et elle vous incite à davantage voter pour lui, c'est ça?
Exactement, c'est exactement ça. Tout à fait. Tout ce qu'on entend actuellement, les procès contre le comité de Nice, les plaintes contre le comité de Nice France, toutes les bêtises qu'on entend, on se dit, ce monsieur Zemmour, il dit les choses il dit ce qu'il pense. Alors, il est peut-être moins dans la com que certains. Enfin, vous avez prononcé tout à l'heure, c'est indigne de pointer une arme. Alors peut-être, mais
j'ai posé la question.
Est-ce que c'est pas moi? Je me pose la question de savoir si c'est pas indigne de poser avec une photo de, je sais plus comment il s'appelle, Mike Flagg et Carlito.
C'est pas la même chose, vous savez bien.
C'est pas la même chose. Moi, je trouve ça indigne.
C'est pas la même
chose. Pour un président de la République.
Oui, mais
on parle d'un président de la
République. Si vous voulez, il y a dans le cas de Max Fly et Carlito une interprétation personnelle que vous pouvez avoir et vous pouvez trouver que c'est indigne. Mais convenez que pointer une arme, en plus une arme massive, ce qu'il avait, c'est, je suis pas un spécialiste des armes, mais manifestement c'est pas une arme de poing, c'est pas un petit pistolet, c'est une arme lourde sur des journalistes, avec en plus reculer la petite phrase qu'il a dite, même si je le répète, c'est du second degré, j'imagine pas que ça soit du premier. Convenez que ça peut faire réagir, voilà, et que c'est pour ça certains peuvent être indignés, choqués. Marlène Schiappa a dit c'est horrifiant, donc.
Oui, mais je trouve ça exagéré, mais bon. Surtout quand on voit, je vous dis, à entendre comme ça la vidéo, après quand on la voit, on voit qu'ils rigolent,
En tout cas, c'est intéressant la réaction des gens, parce que moi, je souligne parfois qu'il y a une petite différence entre le milieu médiatique et puis le public. Bon, là, on a eu trois appels. Les trois, manifestement, ne sont pas choqués, même si Nathalie trouvait que c'était déplacé, mais au fond, le mot tempête dans un verre d'eau a été employé. Donc, je vais demander à Olivier, qui est sur sur la page Facebook et ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir quelle est la sensibilité, la réaction du public avec les pincettes évidemment qu'on doit apprendre puisque ce n'est pas un sondage que nous faisons, ce sont des gens qui réagissent.
Bien sûr,
Olivier, bonjour.
Pages, bien sûr.
C'est quoi la tendance ?
Alors justement, sur nos pages Facebook et Twitter, Pascal Porjac, Éric Zemmour n'a pas à pointer les journalistes de cette sorte, c'est un comportement d'enfant, loin d'une carrure de président. À l'inverse, pour Agnew, on va instrumentaliser son geste, s'en servir contre lui, car sur le terrain des idées, c'est plus difficile. Et on termine avec Antoine qui nous dit ce geste n'est pas dramatique, mais pas non plus admissible.
Bah oui, donc là c'est le en même temps macronien. Il est 13h18, nous marquons une pause. Il y a d'autres sujets hein, aujourd'hui si vous le souhaitez, bien évidemment. Il y a comment faites-vous face à la hausse des prix des carburants. Il y a le tribunal qui a ordonné hier l'audition de Nicolas Sarkozy comme témoin. Il y a la 4L qui fête ses 60 ans. C'est pas votre époque ça, Damien Béchiot. Je pense pas
du
que
tout.
Vous ayez conduit une 4L.
Ah, pas du tout. Hein, je pense même jamais monté dans une 4L, Pascal.
Ah oui, mais moi j'ai eu une 4L et j'ai même eu une 4L fourgonnette quand j'étais étudiant. Et il y a également l'ouvrage Affronté aux éditions Stock de François Hollande qui ne mâche pas ses mots. Donc voilà, des sujets intéressants. Et le directeur du Théâtre de la Colline également qui, à Paris, a refusé de déprogrammer Bertrand Cantat. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et Laurent Tessier.
C'est le sujet qui vous fait réagir au standard. Éric Zemmour fait parler de lui. Le polémiste était ce matin au Salon mondial de la sûreté et de la sécurité intérieure des États. Il a pris la pose avec une arme, un sniper, celui utilisé par le RAID, et a visé des journalistes. Ça rigole plus. Baissez-vous, reculez, a-t-il dit en souriant. La ministre Marlène Schiappa parle d'un moment horrifiant. La réaction du principal intéressé.
Je suis dans un salon des armes. Donc ça me paraît pas complètement incongru de toucher des armes. Je ne braque pas. Vous étiez devant moi. J'aurais braqué n'importe qui, comme vous dites. Mais je braque personne, vous savez, je menaçais personne. Marlène Schiappa est une imbécile. Elle est grotesque et ridicule. Elle essaye de chercher à monter en neige une polémique grotesque. Quand on m'attaque, je tape trois fois plus fort. C'est comme ça.
Que pensez-vous de cette vidéo ? Y a-t-il une surréaction matière à faire polémique ? 3210, 3210.
Bon, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui me reprochent de faire d'une polémique quelque chose qui n'existe pas. Je vois effectivement des gens, Zemmour fait du cinéma avec cette image, pointant les journalistes, tout ça n'est pas très grave et de ça. Bon, je veux bien, mais l'image existe quand même, forcément. Elle existe, l'image, et elle peut choquer, en tout cas. Entendons qu'elle puisse choquer. On en reparlera peut-être avant la fin de l'émission 14h30, mais pour le moment, on va changer de sujet et parler des carburants, du carburant. Comment vous faites face à la hausse des prix du carburant ? Et nous sommes avec un gérant d'auto-école. Jérémy, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes un professionnel. Jérémy, vous êtes avec nous ? Oui, j'ai l'impression, c'est ce que j'avais cru comprendre, la liaison n'est pas exceptionnelle. Donc Pascal, qui travaille à 130 km de son domicile, donc là évidemment, ça doit changer votre vie. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour Monsieur Pro.
Et merci d'être avec nous.
Merci de prendre mon appel.
130 km aller-retour tous les jours ou 260 ?
Non, 260 km aller-retour.
Ah oui, donc là ça rigole pas. Voilà.
Je suis infirmier dans un établissement public en psychiatrie et pour des raisons personnelles, je travaille à Aix-en-Provence alors que j'habite au pied des gorges de l'Ardèche. Je fais 260 km aller-retour en étant de nuit. Donc j'ai cherché à me faire rapprocher, à me faire muter. Mais dans la fonction publique, il faut savoir que quand vous êtes en fin de carrière, les mutations sont impossibles et on vous répond avec un grand sourire que vous coûtez trop cher.
Mais vous êtes à 51 ans, vous êtes en fin de carrière ?
Oui, j'ai commencé à 19 ans et donc moi j'ai gravi les échelons et voilà, je suis en fin de carrière. Donc c'est pour ça que moi, dans 8 ans, je suis à la retraite. Donc j'attends avec intérêt l'âge pivot, mais bon, ça c'est un autre débat.
Bon, les frais sont à votre charge, c'est vous qui payez l'essence. Voilà, vous ne pouvez pas les faire supporter par, en l'occurrence, c'est l'hôpital.
Donc j'ai demandé à mon employeur qui m'a répondu que effectivement si je prenais le train, si je prenais toutes les collectivités, il prendrait à 50% mes trajets. Sauf que je suis infirmier de nuit et donc je travaille à 21h et j'ai cherché par tous les moyens, il est impossible de me déplacer. Ou alors de partir à 16h chez moi pour prendre un train qui va m'amener à 17h sur Aix-en-Provence et puis après attendre de 17h à 21h de prendre. Voilà. Donc c'est inenvisageable.
Vous allez combien de fois à l'hôpital.
Donc je vais 20 fois par mois.
Ah oui, c'est voilà. Quand même beaucoup. Donc ça, c'est un vrai budget.
Voilà, donc 5000 km, si vous divisez, je fais à peu près 5 pleins de 70 euros par mois.
Donc vous avez 350 euros d'essence par mois. Bon, voilà. Combien aujourd'hui vous avez d'euros de plus depuis la rentrée ?
Eh ben, depuis la rentrée, donc si on prend durant le confinement où bon l'essence, le gazole était vraiment très très bas, mais à peu près, donc on était, je prenais le litre, il était à 1,16€, 1,17€, et maintenant j'en suis à 1,56€.
Donc vous ça, vous parlez du gasoil ?
Oui, du gasoil, oui.
Oui.
Voilà.
Donc il a augmenté d'un tiers.
Voilà.
Donc vous payez un tiers de plus.
Un tiers de plus.
Donc c'est 120-130 euros de plus par mois.
Voilà, ouais.
C'est de l'argent.
Énorme. C'est énorme.
C'est voilà. De l'argent. Mais alors, c'est indiscret de vous demander votre salaire
Ah non, pas du tout. Hein, voilà, moi, je gagne à peu près entre 2008. J'ai un salaire brut de 2800 euros. Voilà, salaire brut de fin de carrière d'un infirmier, c'est 2800 euros.
Donc, ce qui fait 2500 euros ou 2400 euros.
Oui, et puis vous rajoutez les
impôts.
Dimanches, et puis voilà, vous rajoutez les heures de nuit qui sont de 1,07 €. Et puis vous rajoutez les dimanches qui sont à 45 euros le week-end. Donc, j'arrive à un salaire à peu près de 2800, 2900. Euros par mois.
Donc en gros, les frais d'essence que vous avez, c'est un petit 10% de votre salaire, quoi qu'il arrive.
Plus, parce que j'ai aussi le péage à payer.
Ah oui.
Voilà, le péage. Et puis l'obsolescence de ma voiture.
Il y a combien de péage ?
J'ai à peu près 9 euros de péage par trajet, donc 18 euros par jour.
18 euros par jour ?
Oui, oui.
Multiplié par 20, ça fait 600 euros ?
Oui, voilà, c'est ce que je disais.
Vous avez 600 euros de péage par 18 par
non,
mois, ça fait bien.
Non, je paye 300 euros de péage parce que j'ai obtenu quand même d'avoir 30% parce que je fais exactement le même trajet tous les jours. Donc Vinci nous offre 30%. Non, on s'est déclaré.
C'est, voilà. C'est quand même. Donc en frais entre péage et essence, vous avez donc 800 euros quasiment.
C'est ça, exactement, voilà.
Ce qui représente, pas 50%, mais enfin, au moins 35 ou 40% de votre salaire en frais.
Voilà, exactement. Oui, là, donc c'est pour ça que l'autre jour...
Et il n'y a aucune autre possibilité. Il n'y a pas de covoiturage, il n'y a pas de train, il n'y a pas
alors,
de...
Alors, j'ai essayé de faire du covoiturage, mais le problème, c'est que si je fais du covoiturage, étant donné que j'ai les 30% par Vinci et que j'ai déclaré un trajet... Je peux pas me permettre de sortir de l'autoroute pour faire du blablacar, par exemple, pour ne pas les nommer, parce que sinon je perds les 30% si je vais ailleurs pour faire du covoiturage. Ouais. Vous voyez ? Donc même ça, je peux pas le faire.
Bon, bah écoutez, effectivement, c'est un cas particulier, mais cette émission permet ces cas particuliers, par définition. Hein. Pourquoi c'est intéressant, votre cas ? Parce que lorsqu'un journaliste dit le carburant augmente de 1% ou d'un euro, derrière, c'est des milliers, des millions de cas différents. Et on voit bien le cas à vous, combien il peut être différent de celui qui fait 20 km par jour. Merci Jérémy.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et nous sommes sur... cette séquence carburant depuis plusieurs
oui.
jours.
Comment faites-vous face à la hausse des prix des carburants ? Prenez-vous de moins en moins votre voiture ? Faites-vous plus de covoiturage ? Qu'attendez-vous du gouvernement ? Une baisse des taxes ? Un chèque carburant ? Tout était sur la table encore hier. C'est ce qu'avait déclaré sur RTL Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement.
Il n'y a pas de piste exclue. Ce qu'on veut, c'est que ça soit simple, juste et efficace. L'idéal, c'est évidemment d'avoir une aide directe qui est ciblée sur les personnes qui en ont besoin. Maintenant, moi, j'entends aussi beaucoup de Français qui disent quand on met en place des aides directes, en général, le chèque énergie, on a pu annoncer des choses il y a plusieurs semaines sur le sujet, bah moi je suis pas concerné. Moi je suis toujours un peu au-dessus des seuils. C'est précisément ce sur quoi on est en train de travailler.
Quand va être pris la décision ?
Oh bah
quand
là, je pense que c'est une question de jour et que d'ici à la fin de la semaine...
D'ici la fin de la semaine, on saura.
Bien sûr.
Devez-vous faire des économies ailleurs pour payer votre plein d'essence ? 3210, 3210, venez témoigner dans l'émission.
Retour à Jérémy qui est gérant auto-école à Rennes. Bonjour Jérémy.
Bonjour Pascal.
Alors c'est encore un cas particulier forcément puisque vous êtes un professionnel. Vous avez combien de voitures ?
Alors moi j'ai 7 voitures.
Ah oui. Donc c'est
7 voitures en sachant qu'à peu près le carburant c'est entre 2,50 € et 3 euros hors taxe par heure. Mmh. Donc avec une augmentation de 30 à 40%, ben c'est allez, on va dire grosso modo entre 1 et 2 euros de coûts supplémentaires par heure travaillée.
Donc le 30-40% d'augmentation, c'est depuis quand ?
Eh ben je dirais depuis un an, un peu plus d'un an parce que là ça a baissé. C'est pour ça que nous on peut absorber cette hausse temporairement parce que il y a eu une sauf deviennent.
Ah, j'ai l'impression que ça marche pas très bien, Jérémy. La liaison n'est pas sécurisée. Donc, on va aller avec Didier, puis essayer vraiment de la sécuriser une dernière fois tout à l'heure. Didier, qui est représentant de commerce, vous aussi représentant de commerce, vous êtes un professionnel de la route.
Oui, bonjour Pascal.
Bonjour Didier.
Comment allez-vous, Pascal ?
Mais, je reconnais votre voix, effectivement.
Et oui, on le fait plusieurs fois. Tout ce qui touche la voiture, tout ce qui touche les kilomètres.
Bon, mais là, vous êtes en train de rouler, j'ai l'impression, non ?
Non, je suis arrêté comme il faut. Je suis arrêté avec mon téléphone.
Mais vous êtes en Bluetooth ?
Oui, je suis en Bluetooth.
Ah oui,
oui,
vous arrivez, j'arrive à distinguer le son Bluetooth. Bon, vous faites combien de kilomètres par an ?
60 000.
Ah oui, donc là, vous êtes dans la frange très, très haute.
Ah ben oui, commercial. Hein. 250 km par jour, à peu près. Hein, 300, même plus, hein, des fois.
Mais c'est voilà, fou, je pensais que les secteurs, comme on disait jadis, c'était réduit maintenant, qu'on n'avait plus de grands secteurs, comme dans les années 70 ou 80.
Vous savez, la Saône-et-Loire, ça doit être le cinquième département de France, alors en superficie. Donc c'est très grand. Donc j'ai des rendez-vous, j'essaye d'établir mon emploi du temps journalier sur un secteur à peu près, hein, comme on dit, arrondi un petit peu pour tourner en rond, pour pas trop faire de kilomètres, mais bon, après, on a des rendez-vous.
Oui, mais c'est votre société qui paye, de toute façon, c'est pas vous qui payez.
Ben, bon, donc, ça, je me plains pas. La société, ma société paye mes frais de route, hein, j'ai une carte totale.
Ouais.
Mais c'est énorme, hein, parce que moi, personnellement, je fais, allez, 2,5 plats par semaine.
Oui. Un plat à combien? À 100 euros?
70 euros, à peu près le plein, 70 euros le plein. Donc 140 plus.
C'est un diesel que vous avez ?
C'est un diesel, tout à fait, oui, une Opel diesel automatique, très confortable. Voilà, donc mon patron me paye, ma société, disons qu'on est quand même une grosse société, donc il y a une flotte de véhicules entre pas loin de 7000 véhicules, hein, pratiquement, donc dans ma société, en comptant les camions de livraison et tout, donc ça doit être énorme. L'essence, moi je vais vous dire, j'ai 59 ans, il y a eu la crise pétrolière en 70, dans les années 74, du temps de M. Giscard d'Estaing. Vous savez, on n'a jamais plus, c'est l'essence. Hein. L'essence, c'est la vache à lait.
Alors, on ne vous entend pas, j'ai pas de chance, parce que la liaison n'est pas non plus extraordinaire. Donc,
vous m'entendez mieux, là ?
On va être avec Sylvain, et puis on va revenir avec vous. C'est promis, parce que votre témoignage est intéressant. Sylvain, toujours sur ce carburant, est-ce que vous êtes un automobiliste lambda, ou est-ce que vous êtes un professionnel qui...
Alors, les deux, mon capitaine. Bonjour, monsieur Pascal.
Bonjour, Sylvain. Pourquoi
alors,
les deux,
mon capitaine ? Parce que moi, je suis chauffeur routier.
Oui.
Et en même temps, conducteur lambda avec un véhicule léger.
Oui, mais à ce moment-là, vous ne faites pas beaucoup de kilomètres par an. Vous faites que la moyenne, je crois qu'elle est de 10 ou 12 000 kilomètres par an.
En voiture ? Oui, je
ah oui,
fais
à
même
pied,
pas.
Ça serait
en
plus.
En voiture, ouais. En voiture, oui. Par contre, en camion, c'est beaucoup plus.
Oui, ah bah, en camion, oui, mais en camion, ce n'est pas vous qui payez. C'est la
non,
boîte.
Mais c'est pareil. Ouais, mais c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que la hausse du gasoil, elle impacte tout le monde, quoi. Même vous et moi. Après, sur ce qu'on va acheter dans les commerces, parce que il faut se leurrer. Il faut pas se leurrer. Vous savez aussi bien que moi, même mieux, que tout passe par le transport. Donc, s'il y a un surcoût de gasoil, automatiquement, au bout de la chaîne, on va le payer. On va le payer. C'est clair. Moi, je pense que pour diminuer le gasoil, le chèque. Pour moi, c'est une foutaise. C'est encore un truc alambiqué qu'ils vont essayer de nous faire pour essayer de nous faire croire que, voilà. Moi, vous savez, hier, quand j'ai eu votre collaborateur, et à nouveau aujourd'hui, j'avais préparé un petit truc. Si on baisse chez nous, bon, moi, j'habite sur l'Ardèche. Allô ?
Oui, oui, je vous entends.
Ouais, j'habite sur l'Ardèche, et on n'est pas loin de l'Isère. En moyenne, chez nous, le gasoil, et pour ce que je connais, moi, je parle du gasoil, hein. On est en moyenne à 1,52 le litre. Donc, si on le baissait... À 15%, on tomberait à 1,292, 1,29, voilà, si vous préférez. De 20% à 1,216 et 30%, ce qui serait Byzance, à 1,06, 1,064 exactement. Mais même si on baisse de 15%, vous retirez à 82% de taxes, il reste 67% de taxes quand même, vous êtes en dessous des 1,30. Psychologiquement, c'est important. Psychologiquement, c'est très important. Et c'est surtout... que vous avez pas, vous avez d'autant la réduction de la répercussion sur les produits de matières premières, etc. Parce que, encore une fois, tout arrive par moyen de transport, et s'il y a des surcoûts de gasoil, et ben au bout de la chaîne, le consommateur va le payer. Donc, ce qui fait que ben on va encore taper dans notre pouvoir d'achat. Donc moi, je pense que le plus simple pour que tout le monde ne soit pas lésé, enfin que tout le monde soit sur le même pied d'égalité pour cette baisse de carburant, c'est de baisser la taxe.
Après, bah merci. Merci voilà. De cet échange et de cette proposition. La pause, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et Laurent Tessier.
Faut-il laisser Bertrand Cantat tranquille ? Dans un communiqué, le directeur du Théâtre de la Colline à Paris refuse de déprogrammer l'artiste. Le chanteur a composé la musique du prochain spectacle Mère, qui doit se jouer du 19 novembre au 30 décembre. Cette programmation a suscité la colère du mouvement MeToo. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a réagi sur cette polémique lundi chez nos confrères d'Inter.
Il y a deux choses. Il y a la liberté de création, bien entendu. La question est à poser à Wajim Ouawad, qui ne peut pas, dans ce domaine, être accusé de la moindre complaisance en ce qui concerne la lutte contre les violents. Wajim Ouawad, qui est le patron de la Colline, je précise. Je n'ai pas à intervenir dans la gestion de la Colline. Je regrette que Bertrand Cantat ait été invité, néanmoins.
Wajim Ouawad a répondu à la ministre, ainsi avec le président de la République. Il considère que mes positions sont contraintes aux principes républicains, que l'un ou l'autre me le fasse savoir et je quitterai la direction du théâtre sur le champ. Bertrand Cantat avait été condamné à 8 ans de prison pour le meurtre de Marie Trintignant en 2003. Il avait bénéficié d'une libération conditionnelle en 2007. Son contrôle judiciaire a pris fin en 2011. Vous pouvez réagir. 3210, 3210.
Ça, c'est un sujet intéressant et sur lequel, évidemment, on attend vos réactions. Didier, qui est représentant de commerce, qu'on retrouve en Saône-et-Loire, pour conclure sur le carburant.
Eh bien, Pascal, pour conclure, votre auditeur précédent proposait de baisser la taxe, les taxes de l'État. Mais honnêtement, ils ne le font jamais. Rendez-vous compte de la somme d'argent qui rentre dans l'État français depuis que l'essence existe. Le budget de l'État a besoin de fonctionner, en plus, donc... les péages non plus, ils n'ont jamais baissé. L'essence ne baissera jamais au niveau des taxes. La seule solution, c'est peut-être donner de l'argent, mais donner de l'argent des chèques, je veux bien, Pascal, mais donner à qui et comment vérifier que le chèque, il sert à acheter de l'essence voilà.
Ça, c'est effectivement une question qui se posera si ce système est choisi. Merci beaucoup, Didier. Bernard est là également. Voilà. Pour. Alors, Bernard est routier. Bonjour, Bernard.
Bonjour, Pascal.
Donc, quand on est routier, c'est gasoil, hein?
Ah oui.
Vous êtes tous au gasoil, a priori. Bon.
Ouais, on a essayé l'essence, mais ça marchait moins bien. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes.
Bon, on est sur une hausse de 40% en un an, c'est ça?
C'est pareil, moi, j'ai pas les comptes de mon patron devant les yeux.
Mais vous payez combien aujourd'hui le litre de gasoil?
Les transporteurs?
Oui. Quand vous passez à la pompe, vous...
Ah bah nous on a des pompes, on a des cartes, en réseau privé, donc il n'y a pas le prix d'indiqué, quoi.
D'accord. Vous n'allez jamais faire de l'essence dans une station-service, c'est ça?
Pas professionnellement, non.
Donc votre camion, il y a toujours de l'essence dedans quand vous le prenez?
Non, c'est nous qui le faisons.
Bah, donc vous devez bien connaître le...
Des réseaux privés. Oui, par exemple, AS24, c'est des cartes professionnelles. Le prix n'est pas indiqué, quoi.
Je comprends. Pompe, quoi. Je comprends. Alors, quel est votre sentiment donc sur cette hausse des carburants, si vous la connaissez pas?
Moi, mon sentiment, c'est j'ai appelé parce que j'entends toujours parler de la taxe, Et moi, j'ai pris le problème dans l'autre sens. Je me dis, mais s'ils mettent des taxes, c'est qu'ils ont besoin d'argent. Je pars de ce principe-là. Et je me dis, mais s'ils avaient moins besoin d'argent, ils auraient peut-être moins besoin de taxer. Si on arrêtait les dépenses futiles, si l'État arrêtait de dépenser n'importe comment l'argent du contribuable, peut-être qu'il y aurait peut-être besoin de moins taxer, quoi. Vous allez me dire, c'est des petites économies, ce que je vais vous dire. Mais la Loire, au début, vous connaissez la Loire, parce que vous êtes originaire de Nantes, et vous voyez bien la Loire à Nantes. Mmh. La Loire, au début, c'est pas celle qui est à Nantes. Hein. La Loire, au début, c'est ce qui sort d'un robinet. Hein. C'est une petite source.
Mais, au Mont-Gerbier-des-Joncs.
Voilà, et c'est les affluents qui font que... Voilà, et c'est les affluents qui font que la Loire, elle est ce qu'elle est à Saint-Nazaire ou à Nantes.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire?
Je sais pas, est-ce qu'on a encore besoin de dépenser des millions pour faire un défilé le 14 juillet?
Vous m'avez perdu, Bernard, parce que là, je sais plus ce que vous voulez me dire.
Je veux juste dire que avant de taxer les gens, il faudrait peut-être arrêter de dépenser de l'argent. Si demain, Pascal Praud, on vous supprime 500 euros de votre salaire,
Je suis pas content.
Vous n'allez pas taxer votre mère.
Non, c'est pas mon genre.
Ni votre frère. Vous allez faire quoi? Vous allez diminuer votre train de vie.
Je vais diminuer.
Je vais faire des économies. Vous allez regarder vos dépenses utiles et vous allez les supprimer. Eh bien, l'État n'a qu'à faire pareil. Est-ce qu'on est obligé encore d'avoir le 14... je prends l'exemple du 14 juillet, parce que c'est évident. Mais quand vous voyez le président descendre les Champs-Élysées avec 25 motards devant, 40 cavaliers qui jouent de la trompette, et autant derrière...
Ben c'est le symbole de l'État, c'est l'incarnation de l'État, c'est la fête nationale, oui, c'est une fois par an.
Vous en mettez 10 avec une trompette et 3 motards, et ça suffit, il est en sécurité, on va pas...
Vous seriez un cos-killer, faut vous mettre mais non, mais directeur
on redéploie les gendarmes libérés, on les redéploie sur le territoire. Si tout le monde avait le même nombre de policiers à son service... Si chaque citoyen avait le même nombre de policiers à son service que le président, vous imaginez le nombre de policiers qu'il faudrait? Est-ce qu'on a encore besoin de ça?
Non, mais j'entends ces questions.
Je pose la question, moi. Est-ce qu'on a, et je suppose qu'il y a plein. Il y a un rapport des Cours des comptes, là. Il y a un député qui avait trouvé 140 ou 173 milliards d'économies à faire tout de suite.
Non mais que l'État dépense trop, dans plein de domaines, tout le monde est plutôt d'accord. Donc après, il faut savoir où on fait les économies. En tout cas, merci Bernard. Vous travaillez aujourd'hui ?
Oui, je travaille. Là, je suis entre Paris et Lyon.
Et là, vous êtes sur une aire d'autoroute ?
Oui, je me suis arrêté juste avant là.
Donc quand on déjeune, quand on est routier comme ça, on déjeune dans un routier, comme jadis, ou on déjeune, vous avez préparé ?
Non, ce midi, j'ai mangé à la gamelle, comme on dit. Parce que j'ai pas trouvé, parce que j'ai des heures à respecter. Je suis un petit peu, c'est un peu tendu ce que je fais là aujourd'hui. Et
ah bon ?
J'ai pas le temps de rester traîné.
D'accord. Et vous, ce soir, vous dormez à la maison ou vous dormez dans le camion ?
Non, je suis de Bretagne. Moi, je suis de Vannes et je serai à Lyon. Donc, vous voyez.
Ah oui, effectivement. Donc on dort dans le camion.
Oui.
Et vous rentrez quand ? Au bercail, si j'ose dire ?
Vendredi ou samedi, ça dépend quand j'arriverai.
Et vos semaines, c'est toujours pareil ? C'est du lundi au vendredi ?
Oui.
Donc vous êtes le week-end chez vous ?
Voilà.
Uniquement. Et ça fait combien de temps, Bernard, que vous êtes routier ?
Je sais pas, vous enlevez... J'ai eu mon permis à 19 ans, j'en ai 59.
Donc ça fait 40 ans ?
Ouais.
Et vous aimez toujours ?
Ça va, ouais.
Parce qu'il y a une liberté ?
Ouais, il y a...
Il y a une forme de liberté. On n'est jamais complètement libre, mais
Ça dépend où on travaille, quoi. C'est toujours pareil. Moi, j'ai bougé beaucoup parce que quand le travail me convenait pas, j'allais voir ailleurs, quoi.
Merci Bernard.
Et je voulais juste, je fais une aparté par rapport à hier, parce que hier j'ai eu l'impression d'être censuré par rapport à Chevalier.
Oui.
Je trouve que la question d'intro était mal posée, parce que. Chevalier, il a répondu à une question qu'on lui a posée. Vous auriez à voter entre Zemmour et Le Pen, vous voteriez, il a répondu Le Pen. Si je vous demande à vous, Pascal Praud, votre couleur préférée, c'est le rouge ou le bleu ?
Moi, j'aime bien le bleu.
Voilà.
Non, je préfère le rouge quand même, le rouge d'RTL.
Non. Voilà, c'est ce que je... Mais je peux en déduire que vous êtes de droite, vous aimez le bleu.
Vous croyez vraiment que je suis de droite ? Vous m'étonnez, Bernard.
Mais non, mais après.
Vous êtes le seul à dire ça, en tout cas. Mais c'est quelque chose que je n'ai jamais entendu.
Mais non, je peux supposer. J'ai dit, je peux supposer.
Je vais vous dire, les choses, elles sont plus compliquées aujourd'hui. On est parfois conservateur sur certains domaines, très progressiste sur d'autres. Et pour le coup, les frontières, la droite et gauche, je ne veux pas dire que ça ne veut plus rien dire, mais il y a plein de domaines où on va piocher à droite, à gauche, si j'ose dire, les secteurs qui nous conviennent. On se dit au revoir, Bernard ?
Oui, c'était juste pour défendre Chevalier, parce qu'on on le traite tout de suite de machin, alors qu'il a juste répondu à une question qu'on lui a posée, quoi.
Eh bien, merci en tout cas. Merci beaucoup, Bernard. Vraiment, c'était sympa de vous écouter. Il est 13h50. Que se passe-t-il ?
On va voir Olivier sur Facebook.
Oui,
Olivier,
c'est moi.
Olivier sur Facebook.
Vous savez, ce jeune homme en régie qui lit les commentaires.
Mais bien sûr, vous êtes bleu ou rouge ?
Ah, rouge, Pascal.
Ah, ouais, donc vous êtes communiste. Ça, bon, c'est selon le, le diagramme de Bernard. Non, moi, pas le diagramme d'ailleurs, mais selon l'axiome de Bernard.
D'accord, bon, allez, je vais lire les commentaires. Pour Jean-Pierre, le carburant devient une dépense très difficile à assumer. Il faut absolument que les prix baissent. Franck, qui est chauffeur taxi, nous dit que ça ne donne même plus envie aux nouvelles générations de s'engager dans nos métiers. Et on termine avec Anne. Le carburant m'empêche de faire plaisir à mes enfants. Ça plombe le budget. Il faut une vraie transition énergétique.
Alors, autre sujet à présent à 13h51, mais après la pause.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On termine donc sur le sujet carburant et je sais qu'il y a beaucoup de chauffeurs de taxi qui nous écoutent à cette heure-là. Dans Paris, c'est pas toujours facile et figurez-vous que je salue Mamed. Mamed qui est en train de conduire dans Paris, chauffeur de taxi qui est en train de nous écouter. Bonjour Mamed.
Bonne route Mamed. Et je vais continuer de vous parler d'automobile puisque cette année, la Renault 4L fête ses 60 ans.
Oui.
Fait un tour en Renault 4, demande-lui beaucoup.
Ah, c'est Michel Fugain.
Michel Fugain,
vous avez reconnu la voix. On dirait c'est Big Bazar des années 70.
Quel souvenir avez-vous avec cette voiture mythique, légendaire? La 4L a été dévoilée lors du salon de l'auto de 1961, commercialisée jusqu'en 1992. Et c'est forcément une voiture qui a marqué plusieurs générations, rencontré un franc succès. 8 millions d'exemplaires, deuxième voiture française la plus vendue de l'histoire.
Et je crois vous que en avez Richard, une, on a une.
C'est ma première voiture.
Non.
Une 4L Safari bleue d'occasion, formidable.
Eh bien moi, j'ai des souvenirs poussant la 4L rouge de ma maman qui ne démarrait jamais. Je vous jure,
c'est ballot.
Non. Pourtant, c'est une voiture fiable.
Quand même, c'est pas très pour qu'elle démarre. Et comme elle nous emmenait à l'école, on était plusieurs, on avait 12 ans, 13 ans, on poussait la voiture pour qu'elle démarre. Je vous jure que c'est vrai. Il est 13h56, c'est le moment de
l'heure du crime.
De Jean-Alphonse Richard, qui est un grand amateur d'automobile, mais également de crime.
Eh oui, les deux vont parfois ensemble, cela dit. Hein, comme disait Al Capone avait dans sa fameuse voiture, il était fou de voiture aussi, avec sa Cadillac blindée, Capone. Ouais. Donc, on n'en est pas là, on n'en est pas à Capone aujourd'hui. Aujourd'hui, je reviens sur une affaire beaucoup plus grave, qui est l'affaire Tiphaine Véron. 3 ans et 3 mois que cette jeune Française de 36 ans, qui habitait Poitiers, a disparu au Japon. C'est terrible parce que c'est une enquête dans laquelle on a le sentiment que les autorités japonaises soit ne font pas grand-chose, soit sont gênées aux entournures. Il y a un poids très puissant qui pèse sur cette enquête, un poids du secret, un poids du mystère, un poids du non-dit. La famille remue ciel et terre, évidemment, pour essayer de retrouver une trace de Tiphaine. Elle est allée sur place, elle va y retourner. Donc on va faire le point sur cette enquête dans le désordre, qui devient presque une affaire d'État, hein, puisque la famille, c'était encore lundi, a sollicité Emmanuel Macron pour essayer de faire de peser sur les autorités japonaises pour que le dossier avance.
Et à chaque fois qu'on entend cette histoire, on ne peut être qu'en empathie avec la famille, la disparition, c'est terrible.
On aura d'ailleurs la sœur, hein, et on aura l'un des frères comme invité, l'un des frères de Tiphaine dans l'heure du crime à 14h30.
Alors autre sujet, je vous le disais, c'est le directeur du Théâtre de la Colline à Paris qui refuse de déprogrammer Bertrand Cantat. Alors il faut bien préciser qu'il y a un spectacle qui s'appelle Mère, Bertrand Cantat ne sera pas sur scène. C'est le spectacle qui est proposé par la Colline. Mais la musique de spectacle Mère est composée par Bertrand Cantat. Il ne sera pas présent, il ne chantera pas. Votre avis là-dessus, peut-être avant la pause, Thierry peut nous dire en quelques mots ce qu'il en pense.
Oui. Bonjour Pascal Thierry. Pro, merci de m'accueillir sur votre... oui, bah écoutez, moi je suis artiste donc également, donc je peux comprendre tout à fait qu'on soit choqué. Je le suis aussi effectivement sur cette abominable chose qu'il a faite. Il a été condamné pour ça. Donc on peut effectivement, moi je reproche un peu même Bachelot d'avoir pris ce sujet, de l'avoir. Enfin, il y a une règle républicaine en France, et vous avez été condamné. Hein, vous avez.
Oui, mais il y a des condamnations. Faire, j'ai envie de dire qui ne se valent pas d'autres condamnations. Il y a un problème de décence. Il y a un problème de décence, cher monsieur. Quand vous avez tué une femme, il est possible que c'est une manière aussi d'expier que vous renonciez. Vous renoncez à la lumière.
Non, mais qu'est-ce qu'il faut faire?
Vous renoncez à la lumière.
C'est son métier. C'est son métier.
Enfin, il a tué une femme, monsieur. Il a tué une femme.
Non, mais
moi, je pense que pense à la mère de Marie Trintignant.
Alors, moi, j'ai pas les conclusions. Non,
mais on va en parler tout de suite après la pause, parce qu'il est 58, et ça, c'est un débat important. À chaque fois qu'on parle de Bertrand Cantat, moi, je suis un peu sur cette position. Évidemment qu'il peut vivre, mais je pense qu'il doit vivre loin de la lumière. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Il est 14h. Le flash avec Agnès Bonfillon.
300 personnes évacuées d'un entrepôt à Vambrechy près de Lille ce matin. L'un des employés avait signalé à des collègues avoir posé des explosifs dans le bâtiment. Le suspect depuis a été identifié, interpellé puis placé en garde à vue. Il s'agit d'un intérimaire dont le domicile a été perquisitionné. 5 équipes de 10 mineurs sont toujours sur place. Pour l'heure, aucune trace d'explosif n'a été retrouvée. La reine Elisabeth II accepte à contre-cœur le conseil de ses médecins de se reposer quelques jours, ce qui la contraint à annuler une visite en Irlande du Nord, communiqué du palais de Buckingham. Selon l'agence de presse britannique, la souveraine, âgée de 95 ans, se repose au château de Windsor, près de Londres, et son état n'est pas lié au coronavirus. L'autorité de sûreté nucléaire vient de juger acceptable la solution proposée par EDF pour réparer le dernier problème en date sur le chantier du réacteur EPR de Flamanville dans la Manche, un problème de soudure. Le gendarme du nucléaire explique dans une note ne pas s'opposer à la pose d'un collier de maintien sur ses raccordements, évitant ainsi à EDF des réparations plus complexes qui auraient menacé le démarrage du réacteur fin 2022, déjà en retard de 10 ans. La météo, attention tempête. 3 départements sont en alerte vigilance orange, vent violent à partir de 16h cet après-midi. La Manche, le Finistère notamment et le Morbihan. La nuit prochaine, une tempête balayera la moitié nord avec des rafales atteignant 100 à 120 km/h sur les côtes et 90 à 100 km/h dans les terres. Le tout avec de la pluie. Demain, cette tempête s'évacuera par le nord-est. Attention, la baisse des températures, elle sera beaucoup plus franche demain. Le quintet vient de se terminer à la Capelle dans l'Aisne, il fallait jouer le 6, le 3, le 5, le 7 et le 2, le 6, le 3, le 5, le 7 et le 2. Il est 14h02 sur RTL. La suite des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Pro.
Merci Agnès.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Je rappelle donc que le directeur du Théâtre de la Colline à Paris, a refusé de déprogrammer Bertrand Cantat. L'artiste a composé la musique du prochain spectacle qui s'appelle « Mère ». Je précise une nouvelle fois que Bertrand Cantat ne sera pas sur scène. Simplement, il a composé la musique du spectacle. Cette programmation avait suscité la colère du mouvement hashtag MeTooTheatre. Le ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, avait déclaré lundi qu'elle regrettait que Bertrand Cantat ait été invité. Et je rappelle ce qui est essentiel, bien sûr, c'est que en 2003, Bertrand Cantat a été condamné pour le meurtre de sa compagne et en 2001, il avait tué Marie Trintignant à Vilnius. Voilà les faits. Alors Thierry, cette discussion et Thierry dit « la justice est passée ». Et moi, je lui réponds « oui, elle est passée ». Mais la décence, à mes yeux, devrait obliger M. Cantat à vivre dans l'ombre. Voilà.
Alors, ce qu'on peut lui conseiller, ok, hein, vous le lui conseillez. Alors, premièrement, il n'est pas dans la lumière puisqu'il va être invité, il ne chantera pas, etc. Il sera dans un coin, premièrement. Deuxièmement, alors, est-ce que la morale, parce que ça, c'est l'émotion de la morale, ok, d'accord. Loin de moi, vouloir le défendre, hein, on est d'accord là-dessus. Hein. Il s'est passé des choses dans cette chambre. Je n'y étais pas, vous non plus, d'accord.
Ça me plaît pas trop ce que vous dites.
Pourquoi ?
Parce que vous semblez dire que Marie Trintignant pourrait avoir une responsabilité ou pas sur le fait
d'avoir... Ben si, tout.
Vous commencez comme ça, je n'y étais pas.
Non.
Il a tué une femme.
Est-ce que vous avez les conclusions
Il a tué une femme. Il a tué une femme.
J'entends bien.
C'est tout. Pardonnez-moi Thierry.
Je suis plus pragmatique que vous. Je
ne sais pas qui est le plus pragmatique. Il a tué une femme.
Moi, je veux voir les conclusions.
Oui, bah donc c'est bien ce que je dis, c'est-à-dire que comme toujours, c'est un prétexte, vous avancez un peu masqué parce qu'au fond, vous pensez que voilà, peut-être y a-t-il des excuses, mais si, vous avancez masqué, Thierry.
Mais non, j'avance absolument pas masqué, c'est pas mon
truc. Enfin, moi, j'ai pas besoin de voir les conclusions du tribunal pour savoir qu'il a tué une femme, pardonnez-moi. C'est ça le... Vous devriez d'abord réagir comme ça. Enfin...
J'essaie d'être pragmatique.
D'être pragmatique. Tu ne lèves pas la main sur une femme.
Mais c'est clair.
C'est tout.
C'est clair et net. Voilà. Ça, on est d'accord là-dessus.
En plus, les conditions, il l'a laissé pendant plusieurs heures sans prévenir personne. Franchement, écoutez...
Ne
parlons pas de ça. Je veux bien qu'on ait un débat sur ce qu'il doit faire maintenant. Là, à la limite, il peut y avoir discussion. Mais ne mettez pas un débat, s'il vous plaît. Pensez à Nadine Trintignant. Pensez à Jean-Louis Trintignant qui est vivant.
J'y pense.
En plus, c'est un thème souvent quand il revient, moi, qui me choque un peu parce que cette histoire m'avait, comme beaucoup de gens d'ailleurs, elle m'avait vraiment beaucoup frappé, beaucoup marqué.
Je l'entends bien, et loin de moi de vouloir... Voilà.
Ne remettons pas ce qui s'est passé dans cette chambre, mais en revanche, la question que vous posez, c'est qu'est-ce qu'il doit faire après ?
La question, c'est que, il faut être encore une fois pragmatique. La justice est passée. Maintenant, si vous voulez absolument qu'il ne soit pas dans la lumière, mettez-le dans le code pénal.
Mais non, parce que c'est une question de décence.
Décence, ça le regarde, la décence. S'il est décent ou pas, ça le regarde. Encore une fois, je le défends pas.
Je suis même étonné qu'on lui commande une œuvre aussi, pour tout vous dire.
Écoutez, qu'est-ce qu'il y a alors donc le directeur, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un salaud?
Non, parce que je voudrais l'entendre, justement. Et avant de je voudrais l'entendre, je voudrais connaître sa motivation.
Il a dit clairement, est-ce qu'il a quelque chose à se reprocher légalement parlant? J'entends bien qu'il y a la morale. Non, mais j'entends bien qu'il y a la morale. Mais
on n'est pas sur une petite affaire quand même. On est sur un féminicide.
Non, mais
c'est pas une petite affaire.
Je trouve ça ignoble. Non, mais je trouve ça ignoble.
C'est bien que vous ignoble.
Oui, non, mais je le dis clairement, c'est ignoble.
D'accord. À la fin de notre entretien.
Maintenant, à ce moment-là, remettez la peine de mort. Enfin, je sais pas.
Et personne dit ça non plus.
Un petit peu.
Mais non, personne dit ça. Je parle de décence.
Ou alors mettez-le dans le code pénal. Quand on fait ce genre de choses, on n'a plus le droit d'être dans la lumière.
C'est très particulier. C'est un artiste. Le problème, c'est-à-dire que dans n'importe quel métier, tu peux reprendre ton métier parce qu'il n'est pas public. Vous pensez par exemple qu'un journaliste qui présente une émission de radio ou de télévision, une fois qu'il a purgé sa peine parce qu'il a tué sa femme, pourrait revenir à l'antenne? Vous pensez que ce serait convenable?
Je ne sais pas si on peut prendre le même exemple.
Ça ne se ferait pas. Ça ne se ferait pas parce que, je veux dire, bien sûr qu'il a purgé sa peine, mais celle de Nadine Trintignant et de Jean-Louis Trintignant et de toute la famille Trintignant dure toujours. Merci en tout cas de cet échange, Thierry.
D'être évident, Pascal.
Pardon ?
Je dis, c'est loin d'être évident. J'entends bien, ok, très bien, c'est ignoble. Il a tué cette femme, à mon sens aussi, vous avez donné des détails, il y en a peut-être d'autres. Je dis, c'est ignoble, mais c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident.
Ce qui n'était pas évident, c'est que... On va rester simple, ce qui n'était pas évident, c'était d'abord pour la famille de Trintignant, c'est d'abord pas évident pour eux, pour les enfants, Marie Trintignant. Et c'est à eux que je pense, et vous ne me ferez pas pleurer sur Bertrand Cantat.
Non,
clairement,
moi non plus.
Clairement,
moi
vous ne me ferez pas pleurer sur lui.
Je ne veux pas pleurer sur lui, mais j'essaie d'être...
On ne ferait pas pleurer sur lui. Je
ne
peux pas vous dire autre chose.
Mais moi non plus.
Mais en revanche, on va marquer une pause. Et on va complètement changer de sujet. Merci beaucoup, Thierry. Merci.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
On va parler de la 4L. Ah, la 4L, les vieilles voitures. Vous vous rendez compte que dans le temps, une voiture était construite en 80, en 61, et elle achevait sa vie en 92. 31 années consécutive de 4L. Aujourd'hui, un modèle dure, je sais pas, 5 ans peut-être, ou en tout cas pas 10 ans. Et nous sommes avec Louis. Bonjour Louis.
Bonjour Pascal, bonjour.
Je vois sur ma petite fiche que vous auriez eu 32 4L.
Oui, il m'en reste 13, là j'en ai 13.
Pascal. Mais pourquoi cette passion?
Une passion qui est terrible, qui m'a pris quand j'étais soldat. Un jour, j'en ai vu une et puis je me suis dit, bon, enfin, il y a quelque chose. J'ai fait le tour pendant un long moment. Et j'ai dit, un jour, quand tu vas rentrer du service militaire, j'étais parti dans les commandos parachutistes, je suis revenu. Et là, à ce moment-là, je suis allé chez Renault et j'ai acheté ma première 4L. Et
neuve.
J'avais pas mon permis. Neuve.
Alors que vous n'aviez pas votre permis.
J'avais pas mon permis.
Mais aujourd'hui, vous en avez 13, vous dites, mais vous les mettez où? Vous les garez où?
Ben, je fais ce que je peux, Pascal. Je fais ce que je peux, excusez-moi, mais j'ai eu de la place pour en mettre quelques-unes à l'abri. J'en ai dehors qui sont couvertes comme je peux.
Mais où? Vous avez une maison, un jardin, un grand jardin, un parc?
Là, j'ai un entourage autour de la maison, 1500 mètres. J'en ai 8 à l'abri dans un garage et j'en ai 2 à l'intérieur là qui sont.
Et elles sont toutes en état de fonctionnement?
Oui, elles sont magnifiques, oui.
Et quand le matin, par exemple, ce matin, vous avez pris votre voiture, peut-être?
Oui, j'en ai démarré une ce matin.
Et mais, quand vous roulez en 4L?
Pas tout le temps, non. Pas tout le temps, malheureusement. Pas tout le temps.
Mais oui, mais pourquoi alors vous en avez 13 si vous ne roulez pas dedans?
C'est parce que c'est pourquoi je me suis déjà. C'est une passion, je vous dis. Je les démarre, j'arrive à les démarrer, je les sors, je fais le tour, le tour du lotissement, quoi.
Et puis après, vous rentrez. C'est génial. Et ça vaut combien une 4L? Alors ça, elles sont de collection.
Oui, collection.
Bon, j'imagine que vous êtes vraiment, vous connaissez très très bien comment réparer. J'imagine que vous êtes un connaisseur de la mécanique.
Oui, un petit peu, oui,
quand même. Combien ça vaut une 4L de collection comme vous avez?
Une belle 4L, je dirais que ça vaut, pour moi, bon, dans les 10... Peut-être que ça va choquer certaines personnes, mais moi je dis dans les 10, 12, voire plus, ça dépend quel modèle vous avez, quoi.
Donc là, par exemple, quand vous en avez 13, vous avez peut-être un parc automobile de peut-être un 150 000 euros.
Oui, c'est possible, oui, ça pourrait être possible.
C'est de l'argent, dites donc.
Oui, c'est de l'argent qui dort.
C'est de l'argent qui dort. Elles sont toutes assurées?
Non, elles sont assurées garage. Quoi.
Ça veut dire quoi?
Eh ben, c'est-à-dire en dépôt, c'est-à-dire elles sont assurées non tournantes. Elles sont
Donc elles sont assurées pour ne pas rouler.
Voilà, elles sont assurées à part deux.
À part deux. Et alors, vous allez les garder tout le temps ou vous imaginez un jour les vendre?
Oh, je ne peux pas les vendre. J'en ai vendu 15, ça m'a arraché le cœur. J'en ai pleuré, je peux vous dire.
Quand vous avez votre 4L?
Ouais, j'en ai vendu 8 il y a quelques années en arrière.
Et vous en parlez comme si c'était des enfants, Louis.
Ben, c'est pas ça, c'est une passion. J'adore mes enfants.
Mais vous avez, pardonnez-moi de poser cette question-là, vous avez une compagne, vous avez des enfants, vous avez...
Oui, j'ai 3 enfants, bon. Monsieur. Oui.
Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que c'est une passion envahissante, papa, quand même, ta voiture, parce que t'as plein d'argent qui dort, là, et tu t'en sers pas.
Ils me disent que... Lucas me dit souvent, papa, ne vends pas les voitures, je t'en prie. Ne les vends pas. Il dit, ben, je dis, écoute, je te les donne tous, ça sera pour toi. Et puis tu feras ce que moi je voulais faire, c'est-à-dire faire un musée. Je voulais faire un musée, c'est-à-dire laisser rentrer les gens sans faire payer les gens. C'est-à-dire qu'ils puissent monter, hein, les toucher, hein, bien au contraire, et puis s'installer dedans, regarder comment que ça se passe. C'était un rêve. Et moi, je ne sais pas si je pourrais le réaliser, mais je pense que lui pourra le faire.
Bon. Vous avez des 4L fourgonnettes?
J'en ai eu une que j'ai vendue il n'y a pas très longtemps.
Parce que moi, j'avais une 4L fourgonnette quand j'avais 21 ans.
Oui, une F4, une F6?
Je ne sais pas, je l'avais acheté à un boucher. Il y avait je me suis baladé pendant quelques semaines avant que j'ai, parce que j'avais pas trop d'argent forcément, avant de la faire repeindre en blanc, et c'était marqué, je me suis à boucherie Espinasse. Je n'invente rien, donc j'arrivais à la fac avec ma 4L de boucher. On pensait que j'étais fils de boucher. Et vous savez pourquoi j'avais acheté une 4L fourgonnette? Parce qu'on pouvait mettre les planches à voile dedans. On les mettait entièrement.
Ah oui. Ah bah oui,
c'était pour ça, c'était aussi bête que ça. Monsieur Boubouk.
Oui,
Pascal. Formidable, hein, nos histoires.
Mais j'aimerais bien que Louis m'en donne une. Je ne sais pas si c'est possible.
Et Louis, vous pouvez donner une 4L à monsieur Olivier? Ah non.
Je pense que ça va être difficile.
Ah bah Louis, non, quand
ne
même.
Ne lui donnez pas, parce qu'il ne sait pas conduire en plus. Bon, qu'est-ce qu'on dit sur Facebook?
Pour Emeline, la 4L, c'est la voiture du siècle, la machine la plus charismatique. Thierry nous écrit, en tant que passionné d'automobile, je n'ai jamais eu une voiture aussi classe. Et on finit avec Ange. Le premier baiser avec l'homme de ma vie, c'était dans une 4L.
Mais oui, c'était très pratique, ces 4L. Alors, le passage de vitesse, c'était à droite, hein, c'était pas au plancher. Nous sommes d'accord, hein, quoi. Moi, j'ai l'impression que toutes les 4L sont pareilles, monsieur Louis.
Non, elles sont toutes pareilles, les 4L. Effectivement, ouais. Il y a des 3 vitesses. J'ai une 61, de 1961, qui a 3 vitesses, qui est toute d'origine avec les tubes, qui est une merveille de chez Renault.
Avec quelle couleur?
Elle est bleu ciel, un peu bleu clair.
Vous en parlez avec amour. Clair. On fait une pause et puis il y a également Franck qui nous attend parce qu'il a 4 4L, lui. Il en a moins que vous, visiblement. Oui. Non, il en a 5. D'ailleurs, 5 4L. Et boucherie espinasse. C'est drôle, non?
C'est original.
C'est une vraie... Alors,
j'espère que le c'était vide derrière.
Et alors contre. Ça, je vous assure, quand je l'ai acheté, ça a duré pendant, je sais pas, un deux mois. Ça sentait la viande là-dedans.
Ah, c'est étonnant.
Pas faire monter des amis ou des amis. Et j'étais jeune, j'avais 20-21 ans. J'avais acheté ça pas cher du tout et était très pratique. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Franck, un petit mot de Franck sur la 4L. Vous en avez 5.
Oui, tout à fait, oui.
Bonjour.
Oui,
j'en ai...
Bonjour.
Qu'est-ce
Bonjour,
qui vous plaît
Bonjour
dans...
aux auditeurs.
Qu'est-ce qui vous plaît dans cette voiture mythique? Parce que c'est quand même... c'est pas forcément pratique de rouler aujourd'hui avec une 4L. Il n'y a pas de direction assistée, il n'y a pas de témoin.
Non, c'est ce qui fait le plaisir aussi de la voiture. C'est une voiture simple qui pour moi, je reviens au passionné de juste d'avant, qui pour moi a une âme. Elle fait partie un peu de la famille, quoi. Donc on connaît tous quelqu'un qui a eu une 4L dans sa vie, quel que soit le moment de sa vie, comme vous avec la 4L que vous aviez acheté qui sentait la viande. Mais non, puis c'est une passion. Dès qu'on a une 4L, en fait, on a plus envie de s'en séparer. Moi. Nous, avec ma femme, on a créé une société justement avec les 4L pour pouvoir faire découvrir aux gens de se promener en 4L. On a 5 4L de mise à disposition justement pour que les gens puissent nous les louer et aller se promener avec ou pour leur mariage ou pour les séminaires d'entreprise, tout ça. Ça permet aux gens vraiment de découvrir...
Mais aujourd'hui quand même, c'est des voitures plus rudes à conduire parce que je disais l'assistance par exemple pour se garer beaucoup de voitures, ça c'est très pratique.
Ouais, tout à fait, mais après c'est un véhicule qui est relativement léger. Donc après c'est vrai qu'il faut un peu d'huile de coude, un peu plus qu'une voiture avec l'assistance, mais ouais. Ça reste une petite voiture assez facile et qui a un angle de braquage important. Donc c'est vrai que c'est une voiture très très simple. Il faut un petit quart d'heure pour se mettre dans le bain et après on s'habitue.
Ah oui, il faut un premier quart d'heure. Et ça voilà. Peut aller jusqu'à quelle vitesse?
Oh, on peut aller avec le vent dans le dos à 110-120, ouais. Faut une bonne pente et un vent dans le dos, mais c'est pas fait pour ça, c'est vraiment une
ça
voiture.
Ça me fait plaisir de remonter dans une 4L, parce que, alors, moi, ça fait 40 ans sans doute que je suis pas remonté, non, peut-être pas quand même 35 ans que j'ai pas dû remonter dans une 4L, et ça me ferait vraiment plaisir de remonter, mais c'est une voiture mythique qui était très jolie d'ailleurs, c'est une voiture Renault. C'était la concurrente de quoi? De la 2 chevaux?
Oui, tout à fait. Enfin, la 2 chevaux, oui.
Elle a été plus sophistiquée que la 2 chevaux, quand même, la 4L.
Oui, différente.
Elle était plus chic.
Elle est plus difficile pour moi à conduire, à mon avis. Après, certains spécialistes de la 2 chevaux vont pas être d'accord avec moi, peut-être. Mais la 2 chevaux avait une boîte de vitesse inversée. On passait la première à la place de la marche arrière et vice-versa. Donc, c'était plus difficile à se mettre dans le bain, je pense, pour conduire une 2 chevaux. Ben après, oui, ça, c'est très ressemblant au niveau de la conduite, effectivement.
Bon, ben merci Franck, merci à Louis. Louis, formidable, faut qu'on vous rappelle, Louis. Hein, vous êtes vraiment un auditeur incroyable.
Écoutez,
ça, faut qu'on vous rappelle. 32 4L, ça, c'est un truc de fou. Merci Louis, bonne journée, le débrief.
Oui, merci beaucoup à vous tous.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
C'est le sujet qui vous a fait réagir ce midi. Éric Zemmour au Salon mondial de la sûreté et de la sécurité intérieure des États. Sur une vidéo, on le voit prendre la pose avec une arme, un sniper, celui utilisé par le RAID, et il se tourne vers des journalistes. Ça rigole plus, la ministre Marlène Schiappa parle d'un moment horrifiant. La réaction du principal intéressé.
Marlène Schiappa est une imbécile, elle est grotesque et ridicule. Elle essaye de chercher à monter en neige une polémique grotesque.
Alors qu'en avez-vous pensé ce midi au Standard? Dominique a été le premier à réagir.
C'est maladroit, parce qu'effectivement, on ne fait pas ce genre de choses, c'est un peu léger de la part de quelqu'un qui pourrait être candidat à l'élection présidentielle.
C'est horrifiant, a dit Marlène Schiappa.
Non, il ne faut pas exagérer quand même.
Une vidéo qui n'a pas choqué Philippe.
Moi, je me pose la question de savoir si c'est pas indigne de poser avec une photo de, je ne sais plus comment ça s'appelle, Mike Flagg et Carlito.
Pas la même chose, vous savez bien.
Là, c'est pas la même chose, moi je trouve ça indigne aussi.
En tout cas, une chose est sûre pour Nathalie.
Vous allez voir, dans les mois qui viennent, s'il se présente, tous ces faits et gestes vont être scrutés. On dirait qu'on n'a rien d'autre à faire.
Un autre sujet aujourd'hui dans l'émission, la Renault 4L qui fête ses 60 ans.
Fait un tour en Renault 4, demande-lui beaucoup.
Et un souvenir, Pascal.
Moi, j'avais une 4L fourgonnette quand j'avais 21 ans. Je me suis baladé pendant quelques semaines avant que parce que j'avais pas trop d'argent, forcément, avant de la faire repeindre en blanc. Et c'était marqué, je me suis à boucherie Espinasse. Je n'invente rien, donc j'arrivais à la fac avec ma 4L de boucher. On pensait que j'étais fils de boucher.
Et puis un nouveau jeu dans l'émission, grâce à Bernard.
Si je vous demande à vous, Pascal Pro, votre couleur préférée, c'est le rouge ou le bleu?
Moi, j'aime bien le bleu.
Ben voilà, Pascal a répondu en premier le bleu, donc Bernard, une conclusion?
Mais je peux en déduire que vous êtes de droite, vous aimez le bleu.
Vous croyez vraiment que je suis de droite? Vous m'étonnez, Bernard.
Mais non, mais après...
Vous êtes le seul à dire ça, en tout cas.
Mais c'est quelque chose que je n'ai
jamais entendu.
Alors, interrogeons également Monsieur Boubouk pour nous amuser un peu.
Vous êtes bleu ou rouge?
Ah, rouge, Pascal.
Donc vous êtes communiste.
Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec les couleurs préférées de Jeanne Mas.
Rouge et noir, j'exciderai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur.
Rebonjour, Jean-Alphonse, un sujet extrêmement grave qui va nous passionner.
C'est vrai, c'est l'affaire Tiphaine Véron, où en est l'enquête aujourd'hui. Cette enquête qui fait du surplace au Japon, où les autorités ne sont pas vraiment emballées à l'idée que... Peut-être on trouve la vérité, on vous dit tout à partir de 14h30, c'est-à-dire très vite, dans l'heure du crime.
A tout de suite.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RT.